Retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h21, vous êtes en direct sur Liberté FM, pardon, je bafouille. Je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième numéro de l'année 2026, l'émission réalisée par Cyril Mann. Comment il va, Cyril ?
Merci, ça va. Toi aussi ?
Bah écoute, super. Ce soir, on va parler cyclisme, et pour l'occasion, on va parler du cycloclub Périgueux de Dordogne. Derrière les grandes courses et les stars du peloton, il y a des clubs amateurs qui font vivre le cyclisme au quotidien. Ce soir, on met en lumière le cycloclub Périgueux Dordogne, qui est en N3, qui est aussi le club phare du département. Ses projets, ses ambitions et les réalités du terrain, avec Johan Poirier et Corentin Fort qui sont avec nous, deux hommes engagés au cœur du club. Merci à vous deux d'être avec nous dans notre émission. Bonsoir Johan.
Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Corentin. Ah, le micro de Corentin allumé.
Ouais, ça y est, c'est rectifié.
Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous.
Merci à tous. Merci à vous deux, du coup, d'avoir le privilège de venir dans la demi-heure sport, dans nos studios à Ribérac. Première question, Johan, j'avais dit en hors antenne que j'allais te mettre en contribution un petit peu. La première question, c'est est-ce que tu peux nous rappeler aujourd'hui ce qu'est le cyclo club Périgueux Dordogne ?
Historiquement, le cyclo club Périgueux Dordogne, c'est quand même un club qui a plus de 100 ans. Donc, c'est très important de le rappeler.
1908, je crois qu'il a été créé.
C'est ça, exactement.
Par un double champion, double vainqueur du Tour de France.
Exactement. Monsieur Petit Breton, c'est bien, t'as bien revu.
Ah, t'as vu ça, j'ai travaillé quand même.
C'est parfait. Moi, j'ai les mêmes notes, j'ai les mêmes infos, mais sans notes.
Sans notes, voilà, mais bien sûr.
Non, mais après, c'est un club très historiquement, en Dordogne, qui a beaucoup fait pour le vélo. Avec tous les anciens présidents, on peut citer. Moi, ceux que j'ai connus, Gilbert Cuménal, Bernard Paul, qui sont malheureusement partis aujourd'hui. On aura une petite pensée pour Christophe, pour Jérôme et les familles de ces gens-là. Parce qu'ils ont vraiment fait beaucoup, beaucoup pour le vélo en Dordogne. D'ailleurs, c'est grâce à Bernard Paul que j'habite ici depuis 2004, entre parenthèses. Et franchement, voilà, c'est un club qui était en N3 quand je suis arrivé, qui est monté en N2 en 2014 grâce à des Jean Vespoulette, des Arnaud Lab, pour ceux qui connaissent encore cette époque-là. Et puis, le club est redescendu en N3 l'année dernière. Mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense, en courant de l'interview.
Exactement. Et comme tu disais, on parle de Christophe Cuménal, qui est encore du coup investi, on va dire, indirectement au club.
Oui, même directement, hein, parce qu'avec sa sœur, ils nous suivent en termes de partenariat sportif depuis plusieurs années. Giant est quand même une des marques, je ne sais pas si on a le droit de le citer, trop tard, c'est fait.
Si, bien sûr, c'est fait, bien sûr, il n'y a pas de problème.
Et qui nous suit depuis, j'ai envie de dire, 25-30 ans au moins. Donc c'est très important pour nous. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour les remercier ce soir encore, parce qu'ils sont... Ils sont tout le temps derrière nous, ils nous suivent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur nos cuissards, on a d'ailleurs le logo Giant.
Et bien sûr, les vélos aussi qui sont là en accompagnement Giant. Quelle est l'identité et l'ADN du club, de ce club de Périgueux ?
Franchement, le club, c'est quand même surtout l'esprit de famille qui a été créé à la base justement par les gens que je viens de citer. Et j'essaye aujourd'hui, avec ma présidente Christine Bercouzaro et avec les jeunes qu'on intègre au fur et à mesure des années, même dans l'équipe, de justement garder cet esprit de famille qui, pour moi, est le plus important, même dans le bureau du club, avec tous les jeunes qu'on a. Et c'est vraiment l'identité, c'est un club familial.
Un club familial, et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de garder au sein du club. Je vais me tourner vers Corentin Fort. Comment tu te présentes aujourd'hui au sein du club ?
Alors moi, aujourd'hui, c'est un petit peu un rôle particulier, parce que du coup, je suis encore coureur, mais je suis également directeur sportif. Ça fait la cinquième année maintenant que je vais démarrer au sein du club. J'ai eu l'opportunité, grâce au club, de passer des diplômes pour ma profession de directeur sportif ou d'entraîneur. Donc je remercie le club par rapport à ça également. Donc j'ai un petit peu cette double casquette entre coureur et directeur sportif, en fonction de l'emploi du temps de Johan ou de l'emploi du temps des autres bénévoles au sein du club. Je peux quand même continuer ma passion de coureur cycliste tout en faisant mon métier, quoi.
Alors Corentin, t'as quand même un petit palmarès quand même derrière toi. Ton âge déjà ?
22 ans. Bientôt 23 ans.
À 22 ans, quand on est coureur, pourtant c'est normalement l'ascension pour un coureur. Comment on peut déjà avoir l'idée d'être directeur sportif ?
Clairement par les résultats.
Ouais.
Je sais très bien que je pourrais pas monter beaucoup plus haut que je suis à l'heure actuelle. Forcément par le moteur que j'ai, mais également par l'envie. J'ai pas forcément l'envie de monter au-delà.
Ouais.
Donc du coup j'essaye aussi de quand même vivre de ma passion, donc par le fait de la direction sportive ou de l'entraînement, et tout en continuant quand même un petit aspect cycliste.
Ouais. Mais si on regarde quand même ton palmarès, il y a quand même des résultats qui marquent. Moi je regarde un résultat là, par exemple je vois 13e l'année dernière au circuit des plages vendéennes. Cette course, c'est pas une course, je veux dire, c'est pas la course du village d'à côté, quoi.
Oui,
est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu ?
Alors là, pour le coup, c'était la première course de la saison où ça lançait vraiment bien la saison pour moi. C'est des courses qui me conviennent parce que je ne suis pas du tout grimpeur. Donc c'était des courses assez plates qui arrivent au sprint. Après, si je devrais vraiment résumer mon rôle, je pense que c'est plutôt un rôle d'équipier. Là, pour le coup, on n'avait pas notre carte au sprint. Donc c'est moi qui ai joué ce rôle-là. Mais sur le coup... C'est sûr que 13e aux plages Vendéennes, j'étais assez content vu le niveau en élite nationale.
C'est quand même pas rien, quoi.
On va essayer de réitérer ça cette année dans pas longtemps. Mais...
Et pour vraiment les gens qui se situent un petit peu sur une échelle, Corentin, il a participé au challenge du coup amateur. Il y a à peu près 608 coureurs qui sont sur ce challenge. Quand même, Corentin, à la fin de l'année, il est classé 281e. Donc c'est quand même pas rien, quand même. Tu fais partie quand même du bon premier wagon quand même.
Oui, alors après pour le coup ma saison était un peu marquée aussi par le fait que je sois en alternance à Poitiers pour mon diplôme.
Ouais.
Ça m'a quand même empêché de rouler autant que j'aurais voulu, que j'aurais souhaité. Donc forcément quand on roule moins ou qu'on s'entraîne moins, c'est plus compliqué de pouvoir performer sur les courses le week-end. Mais je suis assez content de ma saison dans l'ensemble. La formation est finie, j'en ai démarré une autre, mais sur Périgueux, donc c'est plus simple pour m'entraîner.
Bien sûr.
Donc normalement, cette année, j'espère faire un meilleur résultat.
Quelle est, Johan, un petit peu ta vision sportive, du coup, à court et à moyen terme ?
Alors, moi en tant que DS ou
ouais, toi en tant que DS,
club,
par rapport au club, ouais, en tant que DS.
Ben, la vision sportive, c'est... je pense qu'on a fait le bon choix... de descendre de N2 en N3 pour des raisons financières, hein, comme tout le monde le sait. On sait tous qu'aujourd'hui, d'aller chercher des partenariats privés, c'est très compliqué. Que la Dordogne, c'est pas forcément un bassin économique très développé non plus. Hein. On n'est pas à Nantes ou en Normandie ou en Bretagne.
Oui.
Où c'est une terre aussi du vélo et du coup, ça a très certainement plus les partenaires. J'entends tout à fait. Moi, j'ai envie de dire qu'à moyen terme, enfin à court terme, pardon, je partirais sur l'idée qu'en N3, en ayant descendu et en se retrouvant troisième de la Coupe de France, on a quand même bien relevé le challenge. Donc l'idée, c'est quand même de continuer en N3 et de se faire plaisir surtout, hein, parce qu'on a quand même, faut pas oublier aujourd'hui, 50% de l'effectif qui est en espoir. Donc avec une moyenne d'âge qui est à peu près de 22 ans, 22 ans et demi sur le club. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc on est parti plutôt sur de la formation, contrairement à ce qu'on faisait en N2. Et à long terme, oui, forcément, j'ai l'idée qu'on puisse remonter en N2, mais pour ça, il faut trouver 100 000 euros. Alors du coup, ça tombe bien, je suis à la radio, je vais le dire, mais, mais 100 000 euros, c'est pas rien.
Aujourd'hui, pour passer de la N3 à la de la N3 à la N2, c'est 100 000 euros en plus sur le budget ?
Pour être non, c'est pas 100 000 euros sur le budget pour passer, non, c'est pas 100 000 euros.
Ouais.
Par contre, pour être confortable en N2, c'est 100 000 euros. En fait, c'est toute la différence entre ce que demande la Fédération française et ce dont le club aurait besoin pour être confortable dans une saison en N2. Aujourd'hui, on voit des clubs en N2 qui sont à 300-400 000 euros de budget, nous on n'est même pas à 150. Et voilà, moi je me dis qu'à moins de 250 000, Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'essayer. Des fois, comme on dit, il vaut mieux être grand chez les petits que petit chez les grands. Donc, bah, pour l'instant, on est grand chez les petits.
Grand chez les petits, oui, exactement. Votre regard un petit peu, il y a des clubs historiques qui, sont, qui ont disparu, du coup, et qui ont dit en l'été 2025 qu'ils allaient disparaître. Je pense au CC Etube, je crois. Qui a formé un petit peu, je crois, Thibaut Pinot, qui a formé un Warren Barguil, ou encore un Jan Nest qui est à la Jumbo Visma. Des coureurs quand même qui sont importants, des clubs qui ont été qui ont agi énormément sur la formation et qui étaient en N1 depuis historiquement plus de 20 ans, même voire même plus, encore plus longtemps. Vous, quand vous voyez un petit peu ces structures s'effondrer, quel est votre regard un peu sur la situation actuelle du cyclisme amateur?
Ben, moi, j'en aurais deux, en fait. J'en aurais un plutôt pessimiste en me disant « Ok, t'es en N1, tu repars pas. Ben, pourquoi tu fais pas une N2 ou une N3 ?»
Ouais.
Alors, je connais pas le contexte de tous les clubs, de tous ces clubs-là, hein, mais on peut parler de Saint-Etienne, on peut parler de Nouvelin, on peut parler de Locminet, on peut parler de Dinan. Enfin, il y a plein d'équipes. Et en même temps, quand t'es arrivé à ce niveau-là, est-ce que t'as pas envie d'aller plus haut, en fait? Une Conti, ouais, ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'en fait, les gens s'essoufflent à faire 8, 10 ou 15 ans au même niveau. Et ils ont envie de voir autre chose. Et ce que je comprends tout à fait, il faut des challenges dans la vie. Enfin,
ouais, bien sûr.
On est tous pareils dans le sport, dans la vie professionnelle. Classique, j'ai envie de dire. On a tous envie de challenge. Donc bah, peut-être que ces gens-là, ils s'essoufflent et que du coup, bah, ils préfèrent arrêter et peut-être aller vers une U19 ou peut-être aller vers des féminines aujourd'hui où ça marche bien. Et du coup, je pense qu'ils changent peut-être leur fusil d'épaule.
Toi, Corentin, sur la situation?
J'ai un peu le même regard que Johan. Pour compléter, je pense aussi que le milieu dans lequel on évolue, c'est pas forcément comme dans tous les sports où on a un stade, où on a un match tous les week-ends, enfin un week-end sur deux, pardon. Nous on est souvent loin et pour attirer des partenaires des fois qui pourraient manquer, on n'a pas cette opportunité de vendre un match à domicile un week-end sur deux, et forcément c'est plus dur que pour des disciplines comme le rugby, le foot ou le basket où eux pour le coup ont des matchs un week-end sur deux à la maison, et pour faire de la publicité sur des entreprises locales c'est beaucoup plus simple. Plutôt que nous, le boulanger de Périgueux n'a pas forcément envie d'avoir la visibilité à Reims.
Ouais.
Ou en Bretagne, ouais, où on va courir. Et du coup, c'est un peu plus compliqué d'attirer les différents partenaires qui seraient possibles.
Mais à côté de ça, quand même, on peut dire à tous les partenaires qui nous écoutent qu'il faut quand même savoir que le champion de France amateur a porté le maillot de Périgueux un an avant d'être champion amateur.
Oui, alors du coup ancien, du coup ancien et
mais, pour dire.
Mais, oui, du coup ancien.
Je mais, pense mais, à bien mais, sûr à Titouan.
Ouais, on aura une petite pensée pour lui ce soir d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est surtout, je pense que comme je l'ai avoué à Titouan, il serait resté à Périgueux, il n'aurait pas été champion de France.
Ouais.
Parce que justement, ce qui nous manque aujourd'hui à Périgueux, c'est ça, c'est le petit truc en plus qui peut permettre de gravir ces échelons là. Ça nous a pas empêché de faire passer Théo Lafineur cette année en N2 à Cholet, qui était quand même premier de N2, donc comme quoi on arrive à sortir des coureurs, des bons coureurs, mais en effet on n'a pas le budget aujourd'hui pour les garder.
Voilà, c'est ça qui est plus compliqué. Mais on va commenter un petit peu cet été, enfin là du coup pas cet été mais là en fin de saison, il y a quand même eu un mercato qui a été plutôt assez intéressant sur tous les coureurs que vous avez recrutés, en prenant de l'expérience, mais en prenant surtout beaucoup de jeunes coureurs, beaucoup d'espoir, comme on disait, avec du coup pratiquement sur tous les coureurs qui ont entre 19 et on va dire 25 ans, qui ont quand même derrière, ont fait des belles saisons l'année dernière. Et je vais me tourner vers toi, Johan, et après Corentin donnera son avis, mais pourquoi se tourner vers ces garçons?
Comme je disais tout à l'heure,
et tu peux les citer d'ailleurs, les recrues qui ont eu lieu.
Aujourd'hui, l'idée, c'était comme, en descendant N3 dernière, d'avoir du jeune.
Ouais.
D'avoir des jeunes, d'avoir de la formation. Et justement, pour les amener, comme on a pu faire avec Théo Lafuneur cette année, je vais me rappeler, mais pour les amener en N2 ou en N1. C'est un petit peu l'objectif du club aujourd'hui. On est un club passerelle et on est là pour ça. On a une école de vélo, on a des U15, des U17, des U19. qu'on va former et on sait qu'on va les perdre. Mais justement, aujourd'hui, il faut être capable de se dire, ben, j'ai fait mon travail de club de N3. Et mon coureur, il a les moyens d'être en N2, d'être en N1, mais tant mieux, je l'aide à y aller.
Ouais.
En fait, je le garde pas.
Voilà.
Je suis prêt
à le lâcher, quoi.
Ah, mais c'est que même moi, je suis même content d'aider. Quand un directeur sportif m'appelle, il me dit, il y a un coureur chez toi qui m'intéresse. Oui, je vais dire, oui, ben, prends-le. En fait, c'est ça l'intérêt.
Passer un cap.
Exactement. Il faut que les coureurs puissent vivre ce qu'ils ont. Moi, je l'ai fait dans ma carrière. On l'a tous. Il y a beaucoup de directeurs sportifs aujourd'hui qui l'ont fait. Et on sait ce que ça vaut. Et il faut essayer. Ça marche pas. Peu importe, en fait. Mais il faut pas avoir de regrets dans sa vie sportive.
Yoann, quand tu dis ça, beaucoup de directeurs sportifs acceptent. Du coup, beaucoup de directeurs sportifs sont prêts à faire passer un cap. Mais c'est pas le cas de tout le monde, Yoann.
Non, mais je pense que ceux de ma génération, tout cas, ceux qui ont vécu une carrière de sportif, enfin, je ne veux pas dire de haut niveau, parce que je ne l'étais pas, mais d'un bon niveau,
ont envie... national, quoi.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas non plus le palmarès de certains directeurs sportifs non plus. Mais,
bien sûr.
Et j'ai pas cette prétention-là. Mais par contre, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, faire rentrer quelqu'un chez moi, je sais que le cycle, il est de 2-3 ans pour un coureur. Il faut pas se mentir. Et si le coureur a 19 ans en rentrant chez moi, j'espère pour lui qu'à 21-22, il sera passé au-dessus. En N2, en N3, peut-être mieux si c'est possible. Et je l'aiderai en tout cas à faire ça.
À faire ça. Corentin, toi, ton regard finalement, qui est coureur et qui vit un petit peu cette page de directeur sportif.
Moi, pour le coup, ce mélange entre des coureurs plutôt jeunes et des coureurs plutôt expérimentés, je l'ai vécu moi en arrivant au club.
Ouais.
Donc, je suis arrivé, j'avais 19 ans. Le cyclisme, c'est un sport qui est individuel mais qui se travaille en équipe, et je trouve aussi que du coup pour les coureurs jeunes qui intègrent l'équipe, de travailler pour des leaders qui sont plus expérimentés, c'est aussi une partie du métier cycliste. On doit être capable de jouer sa carte de temps en temps quand on a l'opportunité, mais on doit aussi être capable de se mettre au service de leaders pour certaines courses comme les Coupes de France où le club a besoin de chercher des résultats et où les coureurs sont un petit peu dans l'obligation de rouler pour certains leaders, et c'est aussi ça d'apprendre le métier cycliste. Moi, pour ma part, en tant que coureur, je me situe un petit peu entre les deux, entre les jeunes et les plus expérimentés, donc j'ai un peu ces deux visions-là, mais c'est un peu comme ça que je verrais en tant que directeur sportif.
En tant que directeur sportif. Ouais. Est-ce que c'est pas souvent ce qu'on dit ingrat, par exemple, d'être poisson pilote ? Est-ce que c'est pas gratifiant quand on arrive finalement à finir et à emmener son leader et à finir avec le club 3e de la Coupe de France ?
Ça, je pense que ça dépend des coureurs.
Ouais.
Moi, je vais prendre pour moi, je pense que je préfère faire gagner que gagner.
Ouais, ok.
Donc, faire gagner un sprinter, typiquement, en étant poisson pilote, moi, ça me pose aucun problème, au contraire. Mais
alors, souvent, ça, pour quand on sort comme ça, c'est un profil de gentil. C'est un coureur qui est gentil. Je suis sûr que Corentin, il est gentil.
Mais justement, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça sur le vélo, mais je pense que ça vient aussi de la cohésion qu'on essaye de mettre avec Yoann au sein du club.
Ouais.
Je pense que la cohésion, ça fait vraiment partie du résultat de l'équipe.
Ouais.
Et donc, tous les stages qu'on organise et les rassemblements permettent aussi de faciliter cette manière de se mettre à la planche pour un leader ou pour un sprinter, quoi.
Ok. D'être en National 3, ça implique quoi au quotidien, concrètement ?
Ça implique déjà d'essayer d'amener les coureurs au meilleur niveau sur les manches de la Coupe de France.
Ouais.
Forcément, en fin de saison, on compte les points un petit peu par rapport à ces courses-là. Gagner beaucoup de courses au cours de la saison, c'est bien, mais en général les résultats qui ressortent à la fin, c'est soit la Coupe de France soit le Challenge National, donc forcément c'est sur ces courses là qu'on privilégie les résultats, et ça nécessite aussi, comme on le disait, beaucoup de moyens financiers et bénévoles. Donc au club, on a quand même un bon groupe de bénévoles qui nous aident. Nous, on est directeur sportif, mais on n'est pas les seuls à aider les coureurs sur certaines courses, sur toutes les courses, pardon. Donc forcément, ça implique beaucoup de moyens financiers et humains. Après.
Pour toi, Yoann ?
Pour moi, oui, c'est ça. C'est, en fait, aujourd'hui, on a besoin de tout le monde dans un club, on le sait. Et forcément, on le sait, hein, dans n'importe quel club sportif, hein, on ne va pas parler que du vélo, mais les bénévoles, c'est hyper important. Nous, quand on se déplace sur une course, c'est à peu près, sur les courses par étapes, on va dire, c'est 6 coureurs et 3, voire 4 accompagnants. Donc forcément, si nous, en tant que DS, on va préparer la course ou le circuit ou notre stratégie, on sait qu'on a aussi besoin des gens qui sont à côté de nous et qui entourent aussi l'équipe.
Ça mobilise combien de personnes là, quand on part justement sur un tour ou autre ?
C'est 10 personnes.
C'est 10 personnes, d'accord.
C'est 10 personnes, c'est 6 coureurs à peu près et 3-4 accompagnants, un directeur sportif, un mécano, un masseur et un assistant. Ou une.
D'accord. Un club qui reste ambitieux avec aussi, justement, quand on faisait un petit peu on parlait des bénévoles. Moi, en préparant cette émission, j'étais voir Dominique Moiniveau qui suit le club depuis de nombreuses années. Je crois qu'il est arbitre d'ailleurs au club.
Oui, c'est vrai. Il est aussi arbitre du club.
Voilà.
Et c'est lui qui, d'ailleurs, on peut le dire, hein, c'est lui qui prépare souvent les dossiers des courses pour les transmettre à la préfecture, toutes celles qu'on organise. Donc, il fait un boulot administratif qui est assez important. Donc, on peut aussi le remercier par rapport à ça.
Et moi, il m'a dit qu'il allait y avoir des nouveautés cette année. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
En termes d'organisation
Et en termes peut-être de candidature.
La candidature, elle est faite. Hein. Elle a été envoyée au comité de Nouvelle-Aquitaine pour recevoir à Boulazac, Île-Manoir... Ex-Athure, le championnat de Nouvelle-Aquitaine élite.
Ouais.
Et on devrait organiser, enfin, on va organiser d'ailleurs une nouvelle course à Thiviers grâce à Jérôme Joussely qui tient le garage Renault à Thiviers, qui est le papa d'Alex et qui justement voulait organiser une nouvelle course à Thiviers. Donc il y aura une nouvelle course à Thiviers aussi.
D'accord. Et du coup, donc Thiviers, d'ailleurs, qui est souvent actif, hein, que ce soit Tour du Limousin, Tour Ufolep, enfin, Course Ufolep, ou du coup en FFC, c'est une ville qui aime le vélo.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, là, en tout cas, Jérôme est très motivé pour faire cette course. Bon, c'est pas toujours évident, hein, d'organiser une course en élite en Dordogne, donc je trouve ça plutôt bien. Il a déjà le budget et tout, donc il se démène beaucoup et on doit justement statuer dans les prochains jours là, pour... Mais normalement, ça devrait être le 19 avril.
Alors, moi, j'ai fait un petit focus sur le recrutement. Finalement, tu ne nous as pas dit les noms des nouveaux coureurs. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap?
Alors, un petit récap, oui, on peut le faire. On va avoir 8 nouveaux coureurs cette année. Alors, je ne sais pas si c'est important de détailler les 8 coureurs, on peut. Après, ce qui est important de dire, c'est qu'on a augmenté l'effectif, par contre. On est passé de 12-13 coureurs à 17. Et ce que je tenais à dire tout à l'heure, c'est qu'on a quand même 50% de coureurs espoirs, donc ça c'est quand même énorme. Ouais. Enfin, je pense, hein, je pense qu'il y a très peu d'équipes qui ont autant de coureurs espoirs, hormis peut-être certaines structures comme le Vendée ou des choses comme ça, mais sinon, on est quand même plutôt bien placé par rapport à ça. On a fait appel, je dirais, à un très bon coureur qui malheureusement a eu beaucoup de malchance la semaine dernière. Il est tombé à l'entraînement, Clément Le Boitez, qui devait être le grand leader de l'équipe. Donc ça risque de retarder son début de saison au moins au mois d'avril apparemment.
25 ans, qui est arrivé du club de Blagnac, c'est
exactement, ça. Exactement, il a fait le top 16, il a fait Charvieux-Chavagneux en N1, il a fait Blagnac en N2. Donc il avait une grosse expérience de Clément et un coureur qui va très vite. Donc ça nous aidait vraiment beaucoup pour le début de saison. Comme on dit souvent, ce qu'on ne fait pas en début de saison, on le fera après. Donc, j'espère pour lui qu'il pourra se rétablir correctement. Et puis, après, voilà, on a pris pas mal de jeunes à côté. Et puis, quand même, il faut quand même noter aussi le retour de Kalum O'Connor quand même au club.
Oui.
Qui est bien connu et qui était content de revenir chez nous après une petite année dans le Limousin.
Voilà. Au Team U, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Au Team U, qui connaît du coup bien la maison.
Oui, qui connaît bien et qui est un vrai coéquipier pour le coup. On parlait tout à l'heure des coéquipiers, mais ça, c'est vraiment le coéquipier qui est très, très important dans une équipe. À 38 ans, il est encore capable d'apporter énormément et c'est ce qui est important. Ça nous rappelle un petit peu, pour ceux qui ont connu Julien Lamy il y a quelques années, c'est ce genre de coureurs qui, qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment infatigables.
Ça rigolait pas avec Julien Lamy. Une question, on sait qu'on est là dans la période charnière de la préparation. Du coup, qu'est-ce qui est prévu du coup, pour le club du coup, avant d'attaquer les courses là, qui vont bientôt arriver à la fin du mois?
Alors, pour les courses, ça sera le début de saison officiel pour le club. Sur les plages vendéennes, à partir du 13 février.
Avec une victoire de Corentin Fort, ok. Donc ça s'est noté.
Voilà. Alors après, la victoire, elle n'est pas forcément obligatoire, mais un petit top 10 pour commencer.
Voilà,
ça
déjà,
peut être souhaité, c'est histoire de mettre en route pour le reste de la saison. On a deux week-ends aux plages vendéennes, 13, 14, 15 et 20, 21, 22 février. Et après, on enchaîne directement avec la première manche de Coupe de France le 1er mars, donc pour l'Ardèche méridionale. Donc ça, c'est un peu nouveau pour nous parce qu'on a très rarement des Coupes de France aussitôt. Donc ça va être une préparation un peu spécifique qui va commencer par un petit stage en Dordogne à Cornille, exactement, le week-end du 24-25 janvier.
Ils seront, Donc 2 jours, du coup 2 jours en stage en Périgord.
C'est ça, 2 jours en stage, une dizaine d'heures de vélo. Quoi.
Voilà, voilà, c'est ça. Il y a une réaction directe qui dit Robin Tournier, qui dit Yoann Poirier, c'est la référence des cyclistes en Périgord. Voilà.
Un petit mot pour Robin. Merci Robin, c'est gentil.
Du coup, donc pas de stage en Espagne, on reste du coup en Périgord, Corentin.
Oui, bien sûr, on a fait le choix là, du coup, cette année de faire uniquement un stage sur 2 jours. En complément de ça aussi, on a des coureurs qui ont eu la... qui ont choisi de faire des disciplines hivernales, à savoir la piste, le cyclo-cross. On a des coureurs qui sont mis au trail aussi ou même sur route en course à pied. Ça a permis de diversifier un petit peu la préparation et de préparer au mieux la saison. Je pense à des coureurs comme Théo ou Alexis qui ont été jusqu'au championnat régional cyclo-cross, ou également Thomas et Alexandre qui ont fait 10 km du canal à Périgueux. Ça permet de voir autre chose.
Thomas
Caro et Alexandre Jousseline.
Pas de souci, ouais.
Ça permet de voir autre chose et de pas avoir forcément l'esprit concentré au vélo pendant cette saison, un petit peu cette période de transition. Donc chacun a essayé de mettre en place sa préparation au mieux pour arriver prêt dès le début de saison. Donc on a fait le choix, nous, également financièrement, comme on disait tout à l'heure, de faire qu'un week-end sur Périgueux.
Et en plus, dans tous les cas, le Périgord est riche et il y a vraiment tous les terrains pour pouvoir s'amuser. Corentin, toi, en tant que coureur, est-ce que c'est vraiment, là, tu viens d'en parler, est-ce que c'est vraiment important, sachant quand on court en national, est-ce que c'est important de déconnecter?
Ah oui, bien sûr.
La coupure.
Moi, pour le coup, c'est vraiment très, très important. Moi, j'ai la chance de travailler de ma passion, mais du coup, je pense... toute la journée et tous les jours de l'année à ça. Donc forcément, pendant la coupure, c'est bien de penser à autre chose, sinon au bout d'un moment, on explose. Je pense que les coureurs qui ont fait le choix de courir cette année, c'était un petit peu la même chose également. Moi, pour ma part, j'ai pris le choix de faire du cyclisme sur piste. Alors ça reste du vélo, mais c'est pareil, ça... C'est une autre manière de courir et une autre manière de s'entraîner. Donc, on ne pense pas forcément à la même chose que quand on est en saison route où c'est un petit peu routinier et où on fait ça pendant 7 ou 8 mois de l'année. Donc, pour ma part, mentalement, j'en avais besoin. Oui.
Et pour vous, là, sur votre effectif, quel va être le coureur à surveiller dès le début de saison? S'il y avait un nom à citer? Pour pas trop lui mettre la pression quand même, tu vois, on n'est pas...
je pense pas qu'on ait vraiment de valeur individuelle qui puisse se dégager dans le groupe.
Ouais.
Y avait Clément, mais du coup, il n'est plus là. Et je pense qu'individuellement, c'est pas forcément là où on risque d'être le meilleur. Je pense qu'où on est le meilleur, c'est comme on a fait cette année, c'est de pouvoir placer des gars tout le temps devant et d'aller chercher des points ou des fois 2-3 coureurs. J'espère que le recrutement au niveau des jeunes va être bon.
Ouais.
C'est un petit peu comme notre attente. Parce que alors pas forcément sur 2026, hein, parce qu'il ne faut pas penser... faut pas penser 2026, faut penser 26, 27, 28. Hein. On est là aussi pour les former. Mais je pense qu'il y a quelques jeunes qu'on a recrutés qui, qui ont des vraies valeurs et qui sportives.
Ouais, bien sûr.
Sportives
et humaines, certainement.
Humaines, forcément. Sinon, ils auraient peut-être pas été recrutés, certainement pas d'ailleurs.
Bien sûr.
C'est quelque
chose qui tient à cœur.
Ah oui, c'est pour moi ce que je veux, c'est que les gars, ils aient envie de partir en week-end ensemble. Quand on part 2 jours, quand on part 3 jours, quand on part 4 jours, 5 jours des fois ensemble, s'il n'y a pas une cohésion, s'il n'y a pas un groupe, c'est très compliqué. Et comment voulez-vous mettre, comment voulez-vous aider votre copain si vous êtes, il n'y a pas d'amitié, s'il n'y a pas un lien entre vous.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est hyper important. Pour se mettre à la planche pour un coureur, il faut qu'il y ait autre chose que le sportif. Enfin, ça, c'est mon avis. Je suis peut-être encore de l'ancienne école, certainement, mais pour moi, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait une âme dans ce groupe et c'est ce que je me tiens à faire depuis 10 ans. Hein, parce que ça fait maintenant, c'est ma 10e saison.
Ah oui, quand même.
Et
50 ans d'ailleurs que tu as fêté pour pas citer à l'antenne.
Ah oui, 50 ans il y a 3 jours.
Hein. Voilà.
10 ans de directeur sportif. Donc, oui, c'est. Et c'est vraiment quelque chose auquel je me suis attaché. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je vois qu'on a 30 ou 40 demandes en début de saison pour venir au club, je me dis qu'on a réussi à fédérer ça. Parce qu'on ne vient pas que pour les résultats à Périgueux. Parce qu'on est en N3, donc ce n'est pas que ça.
Bien sûr.
Donc je me dis que ça se dit dans le peloton qu'il y a une bonne ambiance à Périgueux.
Et du coup, sur le recrutement, on se consulte tous les deux ou c'est vraiment un choix qui est géré uniquement par la présidente, par les présidents et toi, Johan?
Non, la présidente, elle me laisse entièrement la partie sportive. Donc, c'est vrai que les années précédentes, c'était beaucoup plus moi. Et au fur et à mesure des années,
Corentin... On imprègne un petit peu Corentin dans les décisions.
C'est ça, exactement. D'accord, et parce que dans un an ou deux ou trois, ça sera lui, le directeur sportif.
Le patron.
Et moi qui passerai les bidons.
D'accord, d'accord. Ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment... vous avez réfléchi peut-être que ça va vraiment se passer comme ça?
Ça se passe comme ça, en tout cas naturellement. Je pense que là, au fur et à mesure, moi, je prends un peu de distance parce que par rapport à ma vie perso, et j'ai quand même une fille qui fait un peu de vélo aussi.
Oui, juste double championne nationale.
Oui, mais on n'était pas là pour elle ce soir. Mais,
non, elle reviendra d'ailleurs.
Mais c'est prévu que j'ai des week-ends un peu plus cool pour aller la voir aussi parce que c'est des moments quand on est papa qui sont importants.
Bien sûr.
Et puis Corentin prend très bien ce rôle aussi de son côté, donc je pense qu'on était à 80-20, on est passé à 60-40, et puis au fur et à mesure, il va prendre sa place, exactement.
Toi, Corentin, ta relation avec Johan?
Ouais, je le rejoins parfaitement dans ce qu'il dit là, comme je disais tout à l'heure, je pense pas, j'ai pas vocation à passer au-dessus ou à vouloir monter plus loin. Je pense que ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais du cyclisme, donc aussi même si je suis jeune, j'ai quand même vu pas mal de choses dans le cyclisme. Donc, passer de coureur à directeur sportif, ça me pose pas de problème. Bien sûr, Johan a plus d'expérience que moi. Donc, forcément, j'écoute ses conseils et tout ce qu'il a à m'apprendre par rapport à ça. C'était aussi également le but de ma formation que j'ai passée cette année. Donc, d'avoir le diplôme, forcément, pour pouvoir encadrer l'équipe, mais aussi de prendre en expérience auprès de Johan. Donc je le rejoins parfaitement dans ce qu'il a dit.
Ça passe super vite. C'est juste si vous avez un dernier mot, je sais qu'il a fait un travail énorme de l'ombre. Votre présidente, est-ce que vous avez un mot? J'ai vu qu'elle avait été récompensée lors de l'AG. Si Johan, tu avais un mot à dire sur ta présidente?
Nous, Christine, elle est investie dans le club depuis plus de 30 ans. Donc c'était tout à fait légitime que depuis un an et demi, elle soit présidente. Et on peut vraiment compter sur elle. C'est vraiment... énorme ce qu'elle fait aujourd'hui dans le club, on s'en rend pas compte, c'est une femme de l'ombre, mais elle en fait énormément et merci beaucoup à elle. Et si on parle de ça, j'ai quoi?
Vas-y, là il te reste une minute.
C'est vrai,
une minute parce que là sinon là on regarde.
Je voulais juste te dire que les gens, s'il vous plaît, les automobilistes, faites attention aux cyclistes, vraiment, vraiment aujourd'hui, arrêtez de dire, mais s'il vous plaît, arrêtez de nous dire qu'on ne peut pas rouler à deux de front, c'est faux. Je voulais juste l'occasion de regarder l'article R431-7 du code de la route qui permet aux cyclistes de rouler à deux de front. Donc s'il vous plaît, laissez-nous rouler à deux de front et passez bien 1m50 de nous, c'est hyper important. Jérémy, il fait aussi du vélo et on est tous contraints à ça, à toutes nos sorties, les coups de klaxon, les engueulades, on en a marre. Et vraiment, ça c'est mon coup de gueule de la soirée, c'est laissez-nous faire du vélo sur les routes.
On est bien d'accord et pour le dire, vous l'avez vécu cet après-midi en direct à l'entraînement. Voilà, encore des coups de
lèvres. On le vit à tous voilà. Les entraînements.
Merci Corentin, merci Johan, à vous deux. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de course à pied. On reçoit Johan Durand dans nos studios. Voilà, merci à vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.